Ouais, donc on va commencer par une très longue citation. On parle trop de ce livre depuis tantôt 2 mois pour que nous n'en parlions pas. Disons donc aussi notre mot, bien qu'il nous répugne de le dire. Nous n'aimons pas en effet, et notre retard est ici une preuve de notre peine, à parler en pareille occasion. Nous n'aimons pas à faire la critique sévère de livre où le travail, toujours respectable, perd la meilleure part de son mérite trop évident et incontesté par l'emploi malencontreux que l'auteur en a fait. Il nous fâche d'avoir à dire à un esprit laborieux, après avoir mesuré l'importance et la fatigue de la plus longue de ses tâches, « Vous n'avez pris tant de peine que pour vous tromper beaucoup, et nous tromper un peu. » Or, c'est pourtant ce qu'en conscience, on est obligé de dire à M. Flaubert, malgré le respect, mêlé de stupeurs somnolentes, dont on est saisi au sortir du labyrinthe bruyant et désert, peuplé de statues d'airain, mais sans une âme humaine, qu'il appelle son roman, et que quelques-uns ont appelé son épopée. Un roman, celui où, je le répète, il n'y a pas une vraie créature humaine, en chair, en os, et surtout en âme, si je puis ainsi parler, où tout est fourbi et ciselé, les où rien n'est vivant, où tout reluit et résonne, mais dans l'immobilité d'un monde sans cœur, où tout est bruit sans vibration réelle, où tout est éclat sans vraie lumière. Poème épique ce volume, où manque tout ce qui fait l'âme des épopées, la lutte des hommes et des dieux, où l'on ne trouve pas plus de dieux réels que d'hommes vrais. Un poème épique, ce pêle-mêle de mythologie, cette babel d'archéologie, ce cliquetis d'horreur, ce bric-à-brac de monstruosité où se multiplient les mœurs atroces ou immondes, sans qu'il vous soit une seule fois donné de vous rafraîchir dans le courant d'une vie pure et sereine. Un poème épique, cette corbeille de rognures, comme lui dit Renaudy avec trop de politesse, ce ramassis d'antiquités hybrides, maladroitement agencées ensemble, qui en se remuant produirait le même bruit que le squelette d'un muséum, si un peu de vent passait pour l'agiter. Fille donc, quelle dérision. Alors cette très longue citation, elle est extraite d'un compte-rendu par Édouard Fournier dans La Patrie, 12 janvier 1863, mais je pourrais vous les multiplier à l'infini, les citations de ce genre. Mais le bilan est très intéressant. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? D'abord parce qu'on parle toujours de Salambo 2 mois après sa publication. Donc un compte-rendu 2 mois après. La deuxième chose, c'est cette ligne de partage. Vous avez vu, vous avez entendu le mot respect, puis vous avez entendu aussi l'expression stupeur somnolente. On va retrouver sans arrêt. L'indétermination pour appeler l'ouvrage. Est-ce qu'on peut l'appeler un poème épique? Est-ce qu'on peut l'appeler une épopée? Est-ce qu'on peut parler de roman, etc. Il a même parlé à un moment donné de Babel, d'archéologie, vous avez entendu l'expression. Le malaise du lecteur devant le bric-à-brac de monstruosité, la corbeille de rognures, et vous avez vu dans la deuxième partie, l'imitation du style de Flaubert, justement, cette accumulation de mots plus extraordinaires les uns que les autres. Alors Édouard Fournier, il n'exagère pas, effectivement. Salambo est au cœur des conversations en 1863, 2 mois après sa parution. Alors pour le comprendre, il faut évidemment revenir en arrière sur des choses que vous savez, hein, je pense pour la plupart d'entre vous, mais je vais les rappeler pour qu'on comprenne mieux les caricatures qu'on va voir tout à l'heure et les parodies. Je vous rappelle donc qu'en 1856, Madame Bovary est parue en 6 livraisons dans la Revue de Paris, avec des coupures. Alors pourquoi? Parce que la revue a désiré qu'on coupe la fameuse scène du fiacre. Vous savez, cette scène où il se passe des choses, mais on ne sait pas trop quoi. Donc évidemment, là, Flaubert a été très mécontent. Et puis, Flaubert, il a dû affronter un procès, vous savez, outrage aux bonnes mœurs. Il est acquitté, mais néanmoins, le jugement très très long rappelle que la mission de la littérature doit être d'orner et de récréer l'esprit en élevant l'intelligence, en épurant les mœurs. Et ça, ça va également marquer les lecteurs de Flaubert et surtout les caricaturistes. Le roman, publié en volume au mois d'avril, obtient un important succès de scandale, 15 000 exemplaires par exemple au mois de juin. Et ce scandale va commencer à agacer Flaubert. Il en parlera par exemple en 1879 auprès de Georges Charpentier. Il lui dira « La Bovary m'embête, on me scie avec ce livre-là, car tout ce que j'ai fait depuis n'existe pas. » Et on va bien le voir dans les caricatures, on va revenir sans arrêt à ce scandale de Madame Bovary. Alors dès 1857, pour se changer les idées, que fait Flaubert? Eh bien il se met un roman. Et tout de suite, il parle d'ailleurs de romans carthaginois. Avec une nouvelle méthode d'écriture, il va accumuler les bouquins sur bouquins, les notes sur les notes, pour essayer de ressusciter toute une civilisation sur laquelle on n'a rien. Donc c'est ça aussi qui l'excite, le fait qu'on ne sache pas grand-chose de Carthage. Il fait mieux aussi, il va aller à Bizerte, à Carthage, sur les lieux, pour voir ce qu'on peut retrouver éventuellement. Les 3 années qui suivent, eh bien, vont être des années d'écriture. Flaubert ne fait que ça, on a ça dans sa correspondance, il écrit, il retravaille ses phrases pour avoir évidemment un roman formidable. Alors il s'amuse lui-même, il le dit, il prend beaucoup de plaisir, et il va faire part à ses amis de ses inventions, Et le problème, c'est que ses amis ne sont pas toujours d'une très grande discrétion. Je vous rappelle qu'il a dans ses amis le frère par exemple. Alors, il leur écrit en 1861, il les invite. Voici le programme. Premièrement, je commencerai à hurler à 4 heures juste. Donc, venez vers 3. Deuxièmement, à 7 heures, dîner oriental. On vous y servira de la chair humaine, des cervelles de bourgeois et des clitoris de tigresse sautées au beurre de rhinocéros. Troisièmement, après le café, reprise de la gueulade punique jusqu'à la crevaison des auditeurs. Ça vous va-t-il ? Alors, je vous rappelle, hein, ces lectures, le gueuloir de Flaubert, hein, où il exerce ses phrases et il aime bien regarder ce que ça va donner, évidemment, auprès de ses amis écrivains. Donc les Goncourt vont répercuter, évidemment, cette information et tout Paris va commencer à bruisser de cette humeur. Hein. On va avoir un roman extraordinaire, un roman carthaginois avec de drôles choses. Alors les critiques à venir le stimulent, l'excitent, et il annonce même à Fédot, toujours la même année, en 1861, « Oui, on m'engueulera, tu peux y compter. Salambeau, premièrement, embêtera les bourgeois, c'est-à-dire tout le monde. Deuxièmement, révoltera les nerfs et le cœur des personnes sensibles. Troisièmement, irritera les archéologues. » Très important, on va le voir. « Quatrièmement, semblera inintelligible aux dames. Cinquièmement, me fera passer pour pédéraste et anthropophage. Espérons-le. » Alors, le livre est publié le 24 novembre 1862. On se l'arrache, puisque le scandale est annoncé. 1000 exemplaires par jour sont vendus. Pour l'époque, c'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'on va le lire, hein, mais en tout cas, on va l'acquérir pour avoir l'objet du scandale entre les mains. Alors, ce succès, cet effet de mode, forcément, ça va exciter les caricaturistes qui sont à l'affût de tels événements, et ils vont donc déclencher, évidemment, leur premier jet. Alors, une des premières déviances, soulignée avec insistance par les humoristes, c'est celle du genre. Flaubert s'est appuyé, on l'a vu, sur une archéologie livresque et touristique, puisqu'il est allé là-bas. L'ambiguïté est immédiatement notée par les journaux. Un compte-rendu de l'Univers illustré souligne, citation, « Carthage est le théâtre de nouveaux romans. Le soleil africain éclaire l'action. C'est le mouvement, la vie de la rivale de l'antique Rome. L'auteur abandonne le tableau de chevalier. Il a élargi sa toile. Ce sont les combats qu'il va représenter, les passions ardentes, les luttes homériques. Ce n'est pas seulement une œuvre de poète, c'est une œuvre d'archéologue. On dirait que l'écrivain a vécu à Carthage. C'est un vrai panorama. » Alors vous voyez la transition, on dirait qu'il a vécu à Carthage, et la chute, c'est un vrai panorama, je vous rappelle, hein, c'est panorama circulaire, on pouvait voir des toiles d'assez mauvais goût, et là, il lui dit, ben voilà, c'est une érudition tout à fait livresque et touristique. Alors, le grand critique Sainte-Beuve, évidemment, va se mêler de l'affaire, il va faire beaucoup s'en mêler, même, puisqu'il va faire paraître 3 articles successivement dans le Constitutionnel. Pour lui, déjà, première chose, de toute façon, Salambeau, ce n'est pas un roman historique, et il va conclure très sentencieusement, on la restitue l'Antiquité, on ne la ressuscite pas. Alors Sainte-Beuve, il reproche quoi à Flaubert ? Il reproche tout de toute façon, mais par exemple, il va pointer les anachronismes, l'aqueduc alimentant Carthage, qui est nécessaire évidemment pour faire tourner Salambeau, mais là Sainte-Beuve va dire c'est quoi cette histoire d'aqueduc ? Des inventions comme le Conseil des Anciens, dont on savait pertinemment déjà à l'apparition de Salambeau que ça n'existait pas, donc il va reprocher tout ça à Flaubert. Alors Flaubert, au lieu de laisser passer, va se défendre. Il va répondre, pied à pied, sur certains points. Il va reconnaître des licences, et il va aussi glisser un certain nombre de choses avec humour, quand même, pour renvoyer Sainte-Beuve à son archéologie. Alors il lui dit, vous avez peut-être raison dans vos considérations sur le roman historique appliqué à l'Antiquité, et il se peut très bien que j'ai échoué. Cependant, d'après toutes les vraisemblances et mes impressions à moi, je crois avoir fait quelque chose qui ressemble à Carthage. Mais là n'est pas la question. Je me moque de l'archéologie. Si la couleur n'est pas une, si les détails détonnent, si les mœurs ne dérivent pas de la religion et les faits des passions, si les caractères ne sont pas suivis, si les costumes ne sont pas appropriés aux usages et les architectures au climat, s'il n'y a pas en un mot harmonie, je suis dans le faux. Sinon non, tout se tient. Alors évidemment c'est un débat qui va passionner la presse, parce que finalement pour la presse, les libertés prises par Flaubert sont tout à fait anecdotiques. Il a dit, moi je me moque de l'archéologie, ben, la presse aussi elle se moque de l'archéologie. On lui sait au contraire gré de rendre plus vivante une histoire d'antiquité qui est perçue comme ennuyeuse à l'époque. C'est vrai que l'enseignement d'antiquité, c'était l'essentiel de l'enseignement d'histoire et que les gens n'en gardaient pas forcément un bon souvenir. Donc là c'est amusant. Et donc on va aussi dire une chose qui est importante, c'est que Salambeau est un prétexte pour décrire la société du 19e siècle. Alors pourquoi un prétexte ? Ben, tout simplement parce qu'il s'est attiré des ennuis précédemment, donc là il a pu écrire tout ce qu'il pensait en utilisant le prétexte archéologique. Alors par exemple, dans une pièce parodique de Laurencin et Clerville intitulée « Faux Lambeau » ou « Les cocasseries carthaginoises », Il y a un lecteur qui s'étonne et qui dit « Vous n'avez pas lu Folambeau, cette peinture merveilleuse des mœurs carthaginoises et de la société pudique ?» Non, pudique. Alors, le caricaturiste Stop, lui, annonce « Salambeau traduit du carthaginois ». Et il donne à voir dans une Madame Bovary très légèrement travestie en Salambeau, je vous la montrerai tout à l'heure, explique le trucage employé selon lui. Le romancier aurait écrit son œuvre précédente en lui donnant une couleur antique. Donc c'est Madame Bovary transposée et il dit par exemple la citation « De nombreuses batailles émaillent le récit, c'est toujours la même traduite de César, l'auteur y introduit force éléphant, mais personne ne s'y trompe. » L'érudition archéologique de Flaubert, tantôt extrêmement précise, tantôt anachronique pour favoriser les rebondissements d'un épisode, fait également sourire. Dans quelques pages de Salambeau, roman plus carthaginois que nature, publié par la Vie parisienne, on parodie un passage. Alors je vais d'abord vous lire le vrai passage, celui de Flaubert, qui est le suivant. « Il saisit par les anneaux un cantard tout plein, le leva droit en l'air au bout de ses bras du pendé des chaînes, et regardant le ciel et toujours tenant la coupe, il dit « Salut d'abord à toi, Baal-Echnoun libérateur, que les gens de ma patrie appellent Esculape, et à vous, génie des fontaines, de la lumière et des voix. » Dans la parodie, ça va donner Spendius, un esclave de race grecque, voulant célébrer sa joie et en même temps faire montre de son érudition devant les barbares, prend un large cratère et s'écrie « Salut, Baal-Echnoun » en grec « Esculape »,« Baal-Itanit » en grec « Artémis »,« Tamoug » en grec « Adonis », »,« Baal-Maloch »,« Soleil du Midi »,« Vulcain dévorant », »,« Baal-Melkart », »,« mot à mot, maître de la vie ». Vous avez vu évidemment la première phrase de la parodie, « Spendius, un esclave de race grecque », voulant faire montre de son érudition, c'est qui, bien entendu, c'est Flaubert. Alors la parodie, elle est accompagnée de 7 dessins dont l'apparence illustrative est démentie par des légendes humoristiques. Alors je vais vous les passer. Alors vous pouvez lire, par exemple, sous une reconstitution de monument, vous pouvez voir le temple de la déesse d'après les documents les moins authentiques. Sous la frise des mercenaires marchant contre Carthage, on voit bas-relief antique tiré de la collection des monuments que n'a pas découvert M. Renan. Alors pourquoi ? Et bien parce qu'en fait, non seulement Sainte-Beuve s'est énervée contre l'archéologie de Flaubert, mais vous avez un spécialiste, parce que bon, Sainte-Beuve c'est un critique, mais ce n'est pas un spécialiste, vous avez un spécialiste qui s'appelle Freuner, un archéologue allemand, qui dans la revue contemporaine a dénoncé la fiction flaubertienne et le roman archéologique. Il a dit « Carthage est retrouvée, Carthage est sortie de ses cendres, Carthage renaît de ses ruines, plus belle, plus triomphante, plus monumentale qu'Hamilcar et Hannibal ne l'ont connue. Un écrivain fameux a creusé les arcanes de son imagination, et soudain, Carthage en est sorti rebâti de toutes pièces. Ce que toute l'érudition du monde n'avait pu faire, lui, le romancier, l'a fait. Et sa Carthage est sublime, et sa Carthage est plus réelle que la Carthage ancienne, sa Carthage est la plus vraie Carthage qui ait jamais existé. » Et parmi les multiples reproches qu'il va lui lancer, il y en a un qui a particulièrement retenu l'attention des contemporains. Il a dit « Pour nous, il nous semble que Salambeau est la fille naturelle des Misérables et du musée Campana. » D'où la caricature 3 que vous voyez ici, à la numéro 3, la Vie parisienne, qui propose comme joujou d'étrenne, alors c'était une tradition, en fin d'année on proposait, ou en début d'année, des joujoux d'étrenne à différentes personnalités, et là on propose donc d'offrir à M. Gustave Flaubert un cavalier carthaginois, entre parenthèses, collection Campana. Et là, on va voir ce soir que toutes ces caricatures sont extrêmement érudites. On a tendance parfois à imaginer que les caricatures ne sont pas érudites, mais ils sont très bien au courant de toutes les controverses, et on va le voir d'un certain nombre de choses qu'il faut connaître. Alors, il n'est pas étonnant, par conséquent, que Flaubert se sente vraiment attaqué et relève cette allusion dans la longue polémique qu'il oppose à Freuner. Il lui répond « Je vous demanderai d'abord, monsieur, pourquoi vous me mêliez si obstinément à la collection Campana en affirmant qu'elle a été ma ressource, mon inspiration permanente. Or, j'avais fini Salambeau au mois de mars, 6 semaines avant l'ouverture de ce musée. Voilà une erreur déjà, nous en trouverons une plus grave. » Donc, ça veut dire aussi que Flaubert a certainement vu les caricatures, on le sait, hein, dans ses romans, on en parle souvent, et que ça l'a d'autant plus blessé qu'on puisse rire de ça, alors que lui n'avait pas été voir cette fameuse collection du musée Campana. Alors, on va regarder un autre dessin qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on vient de voir. Voilà, qui est un dessin qui est issu du journal Amusant, qui m'a demandé beaucoup de temps pour le décortiquer. Je vais passer, je ne vous le cacherai pas, plusieurs jours. Alors, c'est un dessin donc de Grévin. Vous reconnaissez bien entendu à gauche Salambeau. Ça c'est facile. Voilà, on la reconnaît très facilement. Donc vêtu à l'antique, quoique. Alors là aussi les caricaturistes font comme Flaubert, ils ne vont pas s'encombrer évidemment de détails. Hein. C'est à l'antique, c'est tout. Voilà. Alors vous voyez qu'elle montre un petit homme à gauche qui est sur un piédestal. Et elle l'accuse d'avoir dérobé Tanit. Donc normalement, celui qui a dérobé Tanit, c'est Mato. Donc le héros Mato. Mais cet homme ne lui répond pas comme répond Mato, évidemment, dans Salammbô. Il lui répond par la phrase suivante. J'ai un pied qui remue. Alors c'est quoi? C'est le refrain de la scie de l'époque. C'est une chanson qu'on a énormément chantée dans Paris. On la retrouve dans toutes les caricatures de la période. J'ai un pied qui remue, mais le vôtre ne va guère. J'ai un pied qui remue, mais le vôtre ne va plus. Voilà. Alors en plus, en lui chantant ça, il lui montre son pied. Vous voyez, dans un geste qui est extrêmement dédaigneux. C'est donc un geste de mépris. Vous voyez qu'entre deux, il y a le serpent, le fameux serpent. Et donc, Salammbô, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, en fait, elle est évidemment tout à fait impuissante devant ce serpent. Et là, le serpent n'est pas là par hasard, c'est parce que le public a trouvé très très osé la scène du serpent de Salammbô. Alors, je vous la relis un petit peu à ce qu'avait écrit Flaubert à propos de ce serpent. Salammbô, haletée sous ce poids trop lourd, ses reins pliés, elle se sentait mourir. Et du bout de sa queue, il lui battait la cuisse doucement. Puis la musique se taisant, il retomba. Donc évidemment, on a en fait ici ce serpent qui se dresse, le geste de la semelle, donc une allusion extrêmement grivoise, redoublée par la chanson grivoise, « J'ai le pied qui remue », etc., etc. Alors, elle est beaucoup plus compliquée que ça, cette caricature, c'est pour ça que je vous disais que j'ai passé quand même du temps à essayer de comprendre, parce qu'il y a encore autre chose à voir. Alors, il parodie un autre passage. Alors, le passage est suivant. Dans Salammbô, elle s'était reculée dans un angle, mais elle fit un pas vers lui et allongeant son bras nu, malédiction sur toi qui as dérobé ta nite, haine, vengeance, massacre et douleur, que Xil, dieu des batailles, te déchire, que Matissement, dieu des morts, t'étouffe, et que l'autre, celui qu'il ne faut pas nommer, te brûle. Mato poussa un cri comme à la blessure d'une épée. Elle répéta plusieurs fois, va-t'en, va-t'en. Et c'est ici évidemment ce qu'on a. Alors, lui, Réval, il va produire un effet comique parce qu'il change la dernière phrase. Donc, dans l'ouvrage, normalement, Mato chancelle sous les imprécations de Salammbô. Ici, au contraire, vous voyez que le pied qui remue signe le triomphe de la bêtise populaire. Et si on regarde bien, cette princesse carthaginoise, elle est suivie par une foule. Cette foule, elle a peur, voilà, ah, les misérables de Victor Hugo. Ouais. Évidemment, référence à la phrase que nous avons vue tout à l'heure de Frenet. Et puis, si on regarde bien aussi, eh bien, on voit l'Académie de musique, la bannière d'Académie de musique. Et c'est l'allusion, effectivement, aux esclaves impuissants qui regardent Mato s'enfuir avec le voile sacré dans Salammbô. Vous savez, ils voient partir Mato et puis il n'y a rien à faire, les esclaves ne peuvent pas bouger. Donc voilà, vous voyez tout ce qu'il y a dans cette caricature, comme je vous disais tout à l'heure, hein, qu'elles sont extrêmement érudites. Et celle-là, Grévin a dû quand même passer beaucoup de temps à la faire. Et puis alors, elle joue sur plein de registres. Et c'est ce qui est intéressant dans les caricatures du 19e. C'est-à-dire qu'il y a toujours moyen de faire rire des gens de manière très immédiate. Et il y a moyen de faire rire aussi les intellectuels qui connaissent les différentes allusions dans les journaux, etc. Alors cette controverse entre Freneur et Flaubert, elle va passionner la presse, car les deux hommes ont fait un saut dans les journaux de citations érudites. Les nouvelles amusantes de la presse présentent la polémique comme une surenchère de drôlerie, un épisode charivarique. Par exemple, justement, dans le journal Le Charivari, on trouve cette information, alors c'est une pseudo-information bien sûr, « Le carnaval de 1863 n'aurait pas rayonné pour moi s'il n'avait été illuminé par les lueurs soudaines du combat héroïque engagé entre M. Flaubert et un de ses critiques, M. Froder. Ces deux messieurs se sont mis à s'écrire lettre sur lettre pour se prouver réciproquement qu'ils sont ignorants comme des carpes. M. Froder a ouvert le combat en déclarant que Salammbô est un tissu d'absurdité. M. Flaubert a répondu que Salammbô est un chef-d'œuvre. M. Froder a écrit une lettre de 1500 lignes à M. Flaubert pour lui prouver que jamais, ainsi qu'il le prétend dans Salammbô, on a enseveli une momie dans la position d'un homme qui se mouche. À l'appui de son dire, le savant M. Froner cite Phalampinus, Histoire des croque-morts, livre 4, page 27, ligne 19, Tartantopinus, commentaire chaldaïque cité par Colimard dans son beau livre des antiquités, Batignolaise. M. Flaubert est au plus bas. M. Flaubert vient enfin de répondre à M. Froner une lettre de 4000 lignes où il prouve que toujours les momies ont affecté la posture d'un homme qui se mouche. Il cite à ce sujet Rigolostrate dans ses recherches sur les pompes funèbres, Blagostrate, page 11, ligne 7,5, dans son poème assyrien du pied qui remue, et 170 autres auteurs de la même force. Donc vous voyez, on retrouve là aussi, alors. Et c'est pareil, dans cette parodie, il a fallu que je cherche très longtemps pour retrouver des jeux sur toute l'actualité de l'époque. Hein, par exemple, les auteurs anciens cités par Froner et Flaubert, Philostrate et Théophraste, on passe aux romanciers contemporains, Louis Rebaud qui vient de rééditer César Phalampin ou Les Idoles d'Argile, donc évidemment c'est un rapport avec Salammbô, Louis Phalampinus, Et puis alors Michel Lévy est l'éditeur de Salambo et de Falampin, donc il y a un rapport aussi. Et puis on retrouve les chansons, hein, Le pied qui remue, etc. Donc vous voyez ce mélange à la fois de choses tout à fait véridiques et évidemment de choses qui font rire ceux qui se donnent la peine d'essayer de... Et puis c'est quand même amusant si on n'a pas toute cette érudition-là. Donc il y a toujours ces deux niveaux, hein, que ce soit dans les parodies ou les caricatures. Alors le romancier, il a constitué un dossier d'une trentaine de folios baptisé Salambo sur ses méthodes pour répondre à son contradicteur. Et ces lectures accumulées par l'auteur alimentent le fantasme d'une dévoration charivarique. Par exemple, dans le journal amusant, on note « Rien de plus curieux à lire que la lettre que l'auteur de Salambo vient d'adresser à M. Freinet. Elle prouve que M. Flaubert est pour le moins aussi savant que ce docte philologue de la revue contemporaine. Maintenant, l'on se demande comment tant d'érudition, tant de philologie, tant d'auteurs compulsés, tant d'historiens dévorés n'ont abouti qu'un roman. » Vous voyez, le mot « dévoré » c'est intéressant. Ça veut dire que cette incorporation, le fait que Flaubert ait autant mangé, eh bien, c'est en fait ses libertés à lui, et ses libertés aussi dans d'autres scènes de dévoration. Je vous rappelle ce qui a beaucoup ému les gens en lisant Salambo, beaucoup troublé, c'est l'histoire du massacre des enfants. Donc on a ce rapport-là entre une dévoration intellectuelle et aussi une dévoration mise en scène de scènes d'anthropophagie qui ont choqué. Voilà. Alors le charivari, par exemple, propose à Flaubert, gourmand de succès, réalisant qu'il lui manque un très gros livre, donc comme il veut un très gros livre, et qu'il découvre toutes les infinies possibilités de toute antiquité, il va allumer un feu sous une tambouille de morceaux de pierre pour cuisiner son roman. Donc, vous voyez, on retrouve encore une fois l'archéologie à mal maîtriser. Alors si les humoristes accordent peu d'importance à la véracité historique de Salambo, ils sont en revanche à la recherche d'un autre rythme historique, d'une filiation plus simple, qui serait une filiation d'une part thématique et d'une constance dans le scandale. Et là, le rapport va vite être fait, c'est Salambo rattaché à Madame Bovary, c'est pour ça que je vous ai rappelé tout à l'heure la proximité et la continuité des deux œuvres. Rattaché comment? Tout simplement par le biais d'une sexualité dépravée. Salambo a suivi les exemples de sa sœur aînée, bien entendu, elle se conduit aussi mal que sa sœur aînée. Alors, on va regarder une autre illustration. Alors là, on va rentrer dans une série... C'est une série dont je vous ai parlé tout à l'heure, faite par Stop. Voilà, dans la légende de la 5. On y reviendra tout à l'heure, je la commenterai plus en détail. Simplement, je voulais que vous voyiez la légende déjà. Pour l'encourager à la vertu, il lui met sous les yeux les exemples de sa sœur aînée, Madame Bovary. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une parodie qui s'appelait Foulambeau. Alors, Foulambeau, vous l'avez remarqué, j'espère. C'est évidemment fou, hein, folle. Puis on va retrouver Beau, pourquoi? Parce que vite les caricaturistes se sont dit Bovary, Salambo, il y a un rapport entre les deux, donc ça donne Colambo. Alors dans cette parodie, on a Emma qui assiste à une pièce. Et cette pièce, comme par hasard, met en scène les aventures de sa sœur cadette. Alors elle discute avec ses voisins, donc c'est Emma Bovary, elle dit « Je ne connais pas Folambeau, moi, moi sa sœur, nous eûmes le même père. » Alors il y a un gros monsieur qui dit « Ah bon ?» C'est Madame Beau. « Oh, je connais son histoire à celle-là. » Oh, une gaillarde! Alors le petit monsieur dit, Madame, alors, est une sœur aînée? La dame, oui et non, ma sœur qui vivait à Carthage il y a 2150 ans est venue au monde 6 ans après moi, qui suis née en 1857. Alors les comptes rendus, évidemment, ont souligné ce rapport, et c'est bien pour ça que les caricaturistes le reprennent. Par exemple, dans la revue contemporaine, on observe ces deux femmes, si distantes à première vue, se pénètrent et s'attirent réciproquement d'un pôle à l'autre du monde moral, par le mystérieux magnétisme des monstruosités, l'étrange, l'horrible, ou si l'on veut d'un seul mot, le difforme, est le domaine de M. Gustave Flaubert. En remontant 20 siècles, en sautant en arrière d'une héroïne ultra-contemporaine, à une héroïne archéologique, il ne l'a pas quittée. C'est toujours la même violence farouche et crue, la même sauvagerie de passion, c'est toujours le domaine de la barbarie. Alors ce huis clos, vous savez, cette scène où Salambo s'enferme avec Mato dans la fameuse tente quand elle va rechercher le voile, eh bien on va le lire, c'est dans ce moment-là, à l'aune des pulsions d'Emma Bovary. Le charivari, par exemple, va feindre la naïveté quant à ce moment-là. On dit dans charivari, cependant, je ne puis passer légèrement sur une insinuation de Flaubert. Non, il n'est pas vrai que Salambo se soit donné à Mato. Calomnie, calomnie. La vie parisienne, elle, va clore de la sorte une parodie. Alors, voici cette parodie. Et je renonce à dire comment l'infortuné fut traîné dans cet état dans les rues de Carthage. Donc ça, c'est la fin de Salambo, normalement. Il descendit la rue du Grand Pont, traversa la place des Arts, le quai Moloch, le Pont Neuf, et s'arrêta tout court devant la statue de Tamoug. Il repartit, et se laissant entraîner par la descente, il entra au galop sur le marché aux herbes. On le vit à Cabal, au Mont Vébo, à la Rougemar, place des Baalis, rue de Boudès et rue de Sapo. Entre parenthèses, Conféré, Madame Bovary, tome 2, page 345 et suivante. Alors là, évidemment, dans la parodie, on aide un petit peu le lecteur, pour qu'il comprenne bien qu'en fait, il vient de lire un amalgame entre Madame Bovary et Salammbô. Alors je vous rappelle le passage de Madame Bovary, c'est la fameuse promenade en fiacre, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais enfin on devine quand même. Donc c'était le récit suivant, elle descendit la rue Grand-Pont, donc on retrouve là le pont, traversa les places des Arts, le quai Napoléon, le pont Neuf, et s'arrêta court devant la statue de Pierre Corneille. Continuez, fit une voix qui sortit de l'intérieur. La voiture repartit, et se laissant dès le carrefour Lafayette emportée par la descente, elle entra au grand galop dans la gare du chemin de fer. Et il va mélanger avec un petit passage de Salammbô, qui était le suivant. Il enfila la rue de Boudès, la rue de Soepo, traversa le marché aux ailes et arriva sur la place de Camus. Donc vous voyez, on a bien mélangé les deux pour donner quelque chose de drôle. Et évidemment, on fait l'amalgame entre cette fameuse scène de Madame Bovary, et vous voyez ici, hein, le petit panneau, le public n'entre pas ici. Déception des lecteurs, tout le monde a été déçu. On aurait aimé savoir ce qui se passait dans le fiacre, et de la même manière, on aurait bien aimé savoir ce qui se passait sous la tente. Voilà, donc voilà pourquoi on va retrouver cette frustration, le public n'entre pas ici. Dans cette frustration, par exemple, je vais vous citer Francisque Sarcé, le célébrissime critique, dans la Nouvelle Revue de Paris, il dit « Qu'est-ce qui parle ainsi? Est-ce Madame Bovary? Est-ce Salammbô? Madame Bovary n'eût-elle pas été fort capable de se pâmer voluptueusement sous les étreintes du serpent sacré, d'aller dans la tente des mercenaires, d'en revenir souillée, de ne sentir pour l'homme qui l'a flétrie ni haine ni amour, et de parler encore de chasteté avec de grands yeux indifférents et vagues, d'être enfin prise d'une passion furieuse pour ce corps nu, déchiré, sanglant, qui passait comme une grande forme rouge, emportée par le tronc dans les rues de Carthage. » Alors, autre question qui va vraiment agiter les humoristes, c'est la question du vocabulaire. Pour vous rappeler, dans Salammbô, il y a quand même tout un type de vocabulaire, et alors là, ça va exciter les caricaturistes et les gens qui font des parodies. Alors, en plus, cet aspect de polyglottisme, hein, on le retrouve aussi, il est très important dans Salammbô, c'est-à-dire qu'on parle toutes les langues et on se comprend pas, vous savez qu'il y a sans arrêt des traductions, donc on va également jouer là-dessus. Alors, par exemple, dans Le Dernier Jour de Carthage, suite de Salammbô, qui est une parodie, Jacques Brochard va rendre hommage au travail de Flaubert et à sa résistance devant les colibés de la critique. Alors, je vous rappelle ce passage de Flaubert qui est assez amusant déjà. Flaubert a dû s'amuser. Il avait doté les mercenaires de balles qui tuaient les Carthaginois en imprimant des insultes dans leur chair. À chaque fois qu'il recevait une balle, il y avait des insultes imprimées. Alors, je cite, « Ce qu'il y avait de plus irritant, c'était les balles des frondeurs. Elles tombaient sur les toits, dans les jardins et au milieu des cours. Ces atroces projectiles portaient des lettres gravées qui s'imprimaient dans les chairs et sur les cadavres on lisait des injures telles que pourceau, chacal, vermine et parfois des plaisanteries, attrape où je l'ai bien mérité. » Je préfère vous la relire parce que c'est déjà parodique en ce moment, donc il faut l'avoir en tête. Sous la plume de Brochard, ça donne ceci. « Alors eut lieu une scène monstrueuse dont rien ne peut rendre l'épouvantement. D'effroyables injures, des vociférations sauvages, des exclamations impies, des mots immondes, obscènes, incongrus étaient lancés, reçus, envoyés. Chacal, poussière, vermine, excréments, masse purulente, tu nous écorches. C'était une mêlée furieuse de substantifs fantasques et fulgurants heurtant les adjectifs les plus colorés, les verbes les plus éblouissants dans un tourbillon resplendissait l'horreur du commun, le luxe de la forme, l'excès de relief et l'exagération de coloris d'une vertigineuse gigantomachie. » Et vous voyez que là, une fois de plus, dans la parodie, on mime évidemment l'accumulation et le rythme de la phrase et de Flaubert. Alors, ces jeux de mots, ces plaisanteries sur les langues vont occuper dans les parodies et les caricatures une place à la mesure du souci de Flaubert, hein, pour dénicher des termes rares et précis et donner des noms évocateurs à ces personnages. Évidemment, le nom même de Salammbô va constituer l'épicentre de ce séisme linguistique. La vie parisienne ouvre le feu avec ses vers. Des mythes africains débrouillant les chevaux, peintre de Bovary, peint-nous le sale en beau. Oh. Alors les variations, on va les trouver à l'infini dans Folambeau, hein, cette cocasserie carthaginoise dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Alors on va trouver sale, trait d'union en, trait d'union beau. On va trouver salambette, on va trouver salambine et salmigondo. Alors par exemple, on a la dame, Madame Bovary, hein, qui regarde la salle et qui dit « Ah, mais comme d'ici, l'on voit la salle en beau. » Et Folambeau dit « Un calembour. » Nazo répond « Salambette. » Chahabarim dit « Hâtez-vous, salambine. » Quel salmigondo, se reprenant, Gondi, c'est Gondi qu'on dit. Vous voyez, hein, pour broder l'infini. Le mot carthaginois aussi va focaliser l'attention. Donc vous avez vu, hein, que les caricatures, je viens de vous montrer, c'est une série qui s'intitule Salammbô traduit du carthaginois. Et même en 1911, j'ai encore trouvé une adaptation pour le théâtre de Guignol où on passait en revue différents types de langues, telles que la faubourienne de Lutèce ou le provençal. et on concluait de la manière suivante. Il y avait Niafron qui disait « c'est bon, soyez heureux et ayez beaucoup de petits cartables ». Et Guignol répondait « carta chinois ». Vous voyez, hein, même en 1911, ça évoque quand même quelque chose encore aux gens, si je ne... L'inflation du langage recherché dans la description conduit forcément un retour à la norme. Il va y avoir un basculement et on demande un retour à la norme. Donc par exemple, la Vie parisienne traduit l'expression « lotte primordiale », vous savez, les fameuses lottes primordiales lors du banquet, en la faisant suivre de l'indication « en français, à Ransort ». Dans la parodie de Jacques Brochard, que j'ai lu un petit peu tout à l'heure, on termine le combat entre les mots sur la vision d'un Gaulois. Un Gaulois, c'est donc un critique français, Sainte-Beuve par exemple, au hasard, qui préfère un peu de naturel vocabulaire les plus faramineux. Après avoir porté un verre au grand Balzac, ce mécontent décide de relire Madame Bovary. Et on revient donc, une fois de plus, à cette fameuse filiation, et toujours, quoi qu'en fasse Flaubert, hein, Madame Bovary. En revanche, les comptes rendus vont insister sur le ton employé dans les dialogues, qui leur paraît par exemple un petit peu trop populaire. Dans la France, Elme Marie Caro va dire « Mon grief le plus grave porte sur le caractère du style qui me semble souvent manquer de justesse et en dissonance avec le sujet. Je ne sais trop ce qu'était le style carthaginois, mais je sais à peu près ce qu'était le style antique, oriental ou romain. Celui de M. Flaubert n'est ni biblique ni latin. Quand Matos écrit « Je la veux, il me la faut, j'en meurs », je me demande si ce n'est pas M. Mélin que j'entends. Il passe ainsi parfois dans ses poétiques et lointains horizons comme un écho de la Porte Saint-Martin. » Traduction, Monsieur Mélin, acteur populaire, théâtre de la Porte Saint-Martin, voilà, les barrières, etc. Donc c'est pas beau, hein, simplement. Alors Stop, lui, va ironiser sur le côté populacier d'une Salambo qui confond médecine et femme de médecin. Vous l'avez normalement dans les caricatures, je vous ai distribué. Oui. Voilà. Vous voyez, là, c'est les deux sœurs qui s'affrontent. Salambo qui dit « Je suis princesse, ma sœur, et vous n'êtes qu'une médecine ». Alors, jeu de mots, évidemment, hein, femme de médecin, médecine, mais la médecine, c'est la purge, je comprends, évidemment, qui rend malade. Madame Bovary, une médecine facile à prendre, ma sœur, mais vous, je plains les gens forcés de vous avaler. Avec toujours le petit caractère, évidemment, érotique, qu'on reproche aux deux ouvrages. Alors, encore une parodie publiée par le Hanneton en 1867, donc on est 4 ans après, on parle toujours de cette filiation Salambo-Bovary, et on imagine le futur de Salambo et de Madame Bovary si elle n'était pas morte, et voilà comment ils les imaginent toutes les deux. L'une était vêtue d'un costume étrange et exotique, on lui voyait encore sa tunique brodée de plumes d'oiseaux et ses caleçons bleus. Des pendants d'oreilles en or portaient, incrustés en émeraude, le taux mystérieux. À ses pieds sonnaient encore les fragments de la chaînette d'or brisée par Matos, et sur sa tête flottait ballottée par le vent le saint et mystique zaïmph de Tanit. Tout en tenant dans sa bouche un os de mort, elle murmurait des mots incompréhensibles. Narava, Stana, Kamika, œil de Baalim, semblable à Tammuz, etc., etc. Donc vous voyez, il y en a une qui délire, pour tout. D'ailleurs, hein, cette histoire de Folambo, qu'on va encore retrouver tout à l'heure. Et l'autre, alors l'autre évidemment c'est Madame Bovary, l'autre était enveloppée dans une robe noire et pleurait. Les cheveux blancs couraient dans ses bandeaux noirs qui semblaient faits d'un seul morceau. Elle tenait dans ses mains deux livres. Là était le code pénal, allusion évidemment à votre procès. L'autre le traité de la nymphomanie de Monsieur de Biéville. Flaubert s'est beaucoup documenté, hein. Il a beaucoup lu effectivement d'ouvrages sur l'aliénation, etc. À ses pieds étaient ses minantes chaussures, sans quartier, qui ne tenaient à son pied que par les orteils. De temps à autre, un long gémissement sortait douloureusement de sa poitrine. Mais elle ne disait rien, et sa tête se perdait en des rêves étranges et indescriptibles. Donc vous voyez, une condamnée à la folie, l'autre à l'aphasie qui ne peut plus parler. Donc voilà le devenir des créations de Flaubert. Alors Salambo ne constitue pas seulement un danger pour ses propres personnages, ça peut entraîner la folie des lecteurs. Dans Charivari, par exemple, vous avez un rond de cuir qui est phagocyté par le récit, au point de croire que son chef de bureau est le suffète Hannon. Il ne supporte pas de rencontrer des gens qui n'aient pas encore parcouru Salambo. « Ah, c'est toi !» s'écria-t-il en me reconnaissant. « Salut à Desmonades, l'ami du corps, le conservateur de la santé. Voyons, l'as-tu lu enfin ?»« Quoi ? Le livre sacro-saint, la Bible moderne. J'ai nommé Salambo. »« Bah non, pas encore. » Comment, lépreux, mangeur de choses immondes, tu n'as pas appliqué sur les ulcères de ton esprit l'huile de cinnamome, le galbanum et le styrax contenus dans l'œuvre de Flaubert ? On l'a dit si ennuyeuse. Chacal, vermine, excrément, tu oses qualifier ainsi les 474 pages sorties d'une plume d'or ? Mais si tu étais un éléphant, je te couperais la trompe. Et voyez qu'on retrouve encore les allusions phalliques. Évidemment encore ces fameux éléphants qui ont frappé l'imagination et cette identification au langage, puisque le lecteur est devenu fou en lisant le livre. La folie s'empare aussi de ceux qui cherchent à distinguer le laid du beau. Le rapport au grotesque est un débat contemporain qui intéresse particulièrement les caricaturistes, et les parodies et les caricatures ne peuvent pas manquer d'épingler ce côté troublant de Salammbô. Une blague du Charivari met par exemple en scène la muse du grotesque qui s'ennuie, et à qui on offre comme dérivatif les romans carthaginois, les réclames de M. Jules-Cohen, les livres de Pontmartin. Dans une autre caricature, dans Journal Amusant, un brave bourgeois qui croyait pouvoir s'endormir grâce à Salammbô voit sa nuit peuplée de cauchemars. D'autres dessinateurs vont soutenir au contraire la thèse inverse. Le roman difficile à lire serait un puissant sédatif. Ainsi, un vieillard, Lefroy, à qui l'on demande pourquoi il arrive en retard, explique dans une caricature du Charivari « C'est pas ma faute, je me suis endormi en lisant Salammbô ». On soupçonne aussi Flaubert d'avoir utilisé de vieilles ficelles. Dans Les délices des enfants, revue de fin d'année en trois actes et en un nombre incalculable de tableaux publiés par Charivari, on espionne Flaubert. Donc Flaubert est en train de travailler. Grand Dieu, ce sac à côté de lui, je le reconnais, c'est l'ancien sac dans lequel on serrait les tragédies. Il doit y avoir encore l'étiquette dans un coin. En effet, je la vois, soporifique. En mettra-t-il ? Il en mettra, il en met. En effet, si certains critiques ont salué l'originalité, le rythme de Salammbô, d'autres, comme Armand de Pontmartin, dans la Gazette de France, ont dénoncé énergiquement leur difficulté à venir à bout de l'œuvre. Je cite, « La première sensation que l'on éprouve en lisant Salammbô, c'est l'étonnement. La seconde, c'est l'éblouissement. La troisième, c'est l'ahurissement. La quatrième et dernière, c'est l'ennui. Un ennui vaste, épais, tassé, touffu, cyclopéen, monumental, carré par la base, haut en couleur, rutilant, flamboyant, truculent, humide et numide, punique et unique. Un ennui de la force de 5000 Carthaginois massacrés par 10 000 barbares ou de 20 000 mercenaires écrasés par 300 éléphants. Alors ces transgressions sexuelles, le langage de l'autre provoquent donc le Charivari, c'est normal. Il imagina dans la revue le Charivari, du 12 février 1863, où les danseurs et les soldats, déguisés à la carthaginoise, trop à leur rôle, pillent la salle de bal et enlèvent les dames. Donc on imagine hein, qu'on pourrait faire évidemment jouer Salammbô et aller jusqu'au bout en enlevant les dames. Mais ça passe pratiquement dans la réalité, puisqu'on propose dans la vie parisienne aux lecteurs différents costumes tirés de Salammbô. Alors je vais vous les montrer. C'est une très belle... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'ailleurs vraiment de caricature, une très belle image en tout cas. Alors vous allez avoir une image une fois de plus d'une Salammbô qui n'est pas vraiment une Salammbô, parce qu'elle est en train de danser le French Cancan. Donc en dansant le French Cancan, qu'est-ce qu'elle nous montre d'important, d'intéressant ? Elle nous montre sa chaînette. Alors elle a un petit chignon frisé, hein, bien sûr, contemporain, donc rien à voir avec les carthaginoises, hein, mais bon, c'est une très très belle image, hein, et qui nous montre bien que Salammbô s'insère dans cette ambiance de l'époque, hein, dans cette ambiance d'érotisation, etc. Alors, on sait même que l'impératrice avait envisagé de paraître aux Tuileries en costume de princesse carthaginoise, mais qu'elle y renonça par crainte de décence. Mais toutes les dames n'eurent pas la même réserve, puisque, par exemple, Le Monde Illustré signale que lors d'un bal donné par le comte Walewski, Madame Rimski-Korsakov s'est déguisée en Salammbô. Alors, cette perte des repères, c'est des normes, devient telle qu'il faut quand même signifier une limite. Et pour signifier cette limite, bien, on va utiliser le bœuf gras dans les plaisanteries. Je vous rappelle ce que c'était que le bœuf gras. On promenait un bœuf gras dans Paris au moment du carnaval et on lui donnait très souvent à cette époque-là le nom d'une œuvre littéraire. Donc devenir bœuf gras, finalement, pour un écrivain, c'était aussi une consécration. Voilà. Alors, dans une blague du Charivari, le nom donné au premier bœuf est tiré d'une revue de l'année 1862 qui s'appelait « Et allez donc, Turlurette ». Donc ça avait été joué à variété le 22 décembre. Donc le premier bœuf dit « Je suis sûr qu'on m'appellera Turlurette, le grand succès de l'année ». Et vous, camarade, on vous appellera Salammbô. Et son collègue, très vexé, dit « Je lui refuse formellement ». J'ai vérifié, il n'y a pas eu de bœuf gras appelé Salammbô. Alors, ces caricatures témoignent, vous l'avez vu, d'une excellente connaissance du roman, des polémiques qui l'entourent, qu'on ait lu ou non le roman. Alors, parce que je vous le disais tout à l'heure, hein, on sait qu'il a été beaucoup acheté, maintenant, est-ce qu'on l'a lu ? C'est pas sûr que les lecteurs aient dépassé les premières pages. Alors, vous voyez cette... cette scène, évidemment, dans un salon qui est très intéressante, hein, où on pose la question qu'on devait se poser effectivement fréquemment, est-ce que vous avez lu Salammbô et la dame, qui fait semblant, à mon avis, hein, de dire « moi je n'entends pas le carthaginois, sous-entendu, je n'ai pas ce genre de lecture ». Puisque on sait quand même hein, qu'à cette époque-là, vous aviez dans la bonne société certains maris qui interdisaient la lecture de Flaubert aux épouses. Alors, ce n'est pas le seul intérêt de ces caricatures. Aux yeux des critiques, Flaubert s'est institué meneur de Charivari en se déguisant en romancier historique. C'est-à-dire que c'est Flaubert qui vraiment montre qu'il est un meneur de Charivari. Et on a d'ailleurs un compte-rendu du Figaro qui souligne « L'auteur de Salammbô n'ayant rien découvert, ni chez les marchands de vieux habits, vieux galons, ni dans la friperie de l'histoire, s'est drapé de ses propres rêves. » Et cette expression « propre rêve », ça veut dire ses propres images, au risque, bien entendu, de déposséder l'imaginaire des lecteurs. C'est-à-dire que vraiment, il y a tant d'images dans ce livre que c'est difficile de se mettre à rêver en le lisant. On a un autre chroniqueur dans la Revue Nationale qui souligne que, pourtant, après avoir lu Salammbô, devant nos yeux éblouis, dans notre esprit fatigué, surgit une pensée consolante. La manie descriptive ne saurait aller plus loin. On ne peut dépasser M. Flaubert sans sortir complètement de l'art littéraire. Au-delà de Salammbô, il n'y a plus que l'illustration, l'image sans texte. Vous voyez combien c'est fascinant. Les contemporains ont déjà mesuré le problème entre cette image. Enfin, on a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus aujourd'hui sur Flaubert, et déjà les contemporains le savaient. Alors, c'est pas par hasard, parce que Flaubert il a un rapport très tourmenté avec l'image. Il ne veut pas qu'on publie son portrait ou sa charge. Et il n'a pas voulu, surtout, qu'on illustre Salammbô. Il s'est fâché contre Michel Lévy, son éditeur. Il dit « La persistance que Lévy met à demander des illustrations me fout dans une fureur impossible à décrire. Ce n'était guère la peine d'employer tant d'art à laisser tout dans le vague pour qu'un pignouf vienne démolir mon rêve par sa précision inepte. » Donc ce strict contrôle de l'imagerie mentale pousse les dessinateurs forcément à la fraude. S'ils ne peuvent pas laisser leur crayon représenter la princesse avec sagesse, rien ne leur interdit de la déformer. La prétendue déformation, peut-être pour flirter avec l'interdit d'illustration, est plus donc démonstrative que parodique. Et vous l'avez vu finalement, vous avez vu que dans ces images, Salammbô, c'est toujours une belle jeune femme. Elle n'est jamais laide. Alors elle peut être différente d'un caricaturiste à l'autre. Vous avez vu par exemple Stop qui croque une jolie fille, hein, fraîche et simple. Grévin, une superbe statue antique. La vie parisienne qui nous offrait un dessin. Alors c'est pour ça que tout à l'heure je vous dis, je ne sais même pas si c'est une caricature, hein, parce que ce très beau dessin qu'on a vu, ben, à mon avis, c'est finalement une façon d'illustrer Salammbô, puisque c'est interdit. On est dans la représentation. Oui, tout à fait. Donc si Salammbô avait été illustré, on peut supposer que les caricatures auraient été d'une autre nature, à la limite. Au rire distancié et travaillé du roman répondent donc des rires de connivence des caricaturistes, qui se moquent davantage d'un public ignare et d'une critique rétive au changement que de Flaubert lui-même. Ce charivari n'est pas un refus devant la nouveauté, mais bien une manière d'exorciser par le rire les formidables mutations que la littérature contemporaine enregistre. Stop, par exemple, imagine la discussion suivante entre Courbet et Flaubert. Il fait dire à Courbet, « Moi, Courbet, j'ai pas ma baigneuse et pas mal d'autres choses peu ragoûtantes. Mais ma foi, monsieur Flaubert, je ne me chargerai pas d'illustrer votre dernier ouvrage. » Alors, cette charge a le mérite de se lire à un double niveau. Même Courbet serait dégoûté par la lecture de Salammbô, mais le bourgeois peut également sourire devant le sort réservé aux deux artistes réalistes. C'est-à-dire qu'on se moque, de manière générale, de la réception qui est faite et à la peinture et à la littérature. L'enjeu de ces caricatures réside donc dans la genèse et le contrôle de l'image. Il est frappant, par exemple, de constater que l'illustration qu'on a vue de Grévin, ça vous a peut-être rappelé quelque chose, ça anticipe l'apparition et Salomé de Gustave Moreau. Ça rappelle ce genre de choses, vous voyez. Donc, les caricaturistes comme le peintre sont sans doute guidés pas à pas dans leur production plastique par la description littéraire extrêmement précise de Flaubert. Le premier s'affranchit du texte par des récits parallèles, par le brouillage des genres. L'humour est donc un hommage à Flaubert, ce qui permet de sortir des carcans imposés par ce dernier, interdiction d'illustration, manipulation imaginaire, par un savant dosage qui est entre iconologie, évidemment, et iconoclasme. Alors en 1890, Henri Séard, disciple de Zola, collectionnait les caricatures de Zola, déplore l'uniformité des caricatures inspirées par Salammbô. Donc il a fait tout un article sur la caricature de Salammbô, et il dit « J'ai là sous les yeux la collection complète des dessins satiriques qu'inspira l'œuvre nouvelle. Et quelle philosophie se dégage de ces légers croquis? Quel enseignement résulte de ces vignettes? Comme tout recommence, et dès lors, comme tout devient négligeable. Ah, la résurrection n'est guère heureuse pour ces critiques du crayon. Et ces misères vraiment de voir à quoi se réduit leur ironie et à quoi se borne leur fantaisie. » Alors son intérêt pour ces dessins n'est pas seulement dicté par l'admiration qu'il a pour Flaubert, c'est parce qu'il a noté, puisque je vous ai dit qu'il conservait les caricatures de Zola, l'extraordinaire parallèle qu'il y a entre ces caricatures. Caricature de Flaubert, je vous ai dit tout à l'heure, il n'en veut pas, mais il y en a quand même, forcément, beaucoup moins nombreuses que celles de Zola, et les caricatures donc de Zola. Et j'ai une caricature qui est très intéressante, parce qu'elle va faire le lien, justement, entre les deux. Alors, elle est parue, cette caricature, en 1874, dans l'illustration. Et c'est sans doute ce à quoi pense Oricéa dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure. Donc vous avez ici Flaubert vêtu en moine. Vous voyez une expression étrange sur son visage, qui s'appuie des deux mains sur l'arrière-train d'un corps, dans une position qui est donc obscène. On est d'accord. La légende indique Saint-Antoine par M. Flaubert. Toute la jeune charcuterie française est indignée. M. Flaubert a parlé de Saint-Antoine, il n'a point parlé de son cochon, c'est un four. Au-dessus du four à pain, vous voyez l'inscription Salon Bovary, en un seul mot, bien folle et qui s'y fie. Et vous voyez sur la porte du four l'indication candidat. Bon, alors celle-là, elle est encore extrêmement complexe. C'est une partie de ces caricatures qu'au bout du temps à déchiffrer. Alors, elle fait allusion à quoi? Elle fait allusion à la troisième version de la Tentation de Saint-Antoine, qui est parue au début d'avril 1874, et au four que connaît la première pièce de Flaubert, le candidat. Le pseudo-proverbe au-dessus du four, ça renvoie à la macolute prêtée à François Ier, souvent femme varie, la folle et qui s'y fie. Et ça rappelle les scandales évidemment littéraires provoqués par Emma Bovary, puis la princesse Salambeau. D'où l'effet comique d'un autre scandale imaginaire provenant du fait que Flaubert vient d'écrire une tentation, et dans sa tentation, il n'a pas flanqué Saint-Antoine de son compagnon populaire. Alors ça, les critiques, un Saint-Antoine sans cochon, scandale. Donc on a beaucoup parlé du port de Saint-Antoine et de Flaubert. Alors le dessinateur imagine de pallier visuellement cette omission, donc vous voyez toujours avec le caricaturiste, bon, ajouter ce qu'il faut, donc il ajoute ce fameux port qu'on réclame à corps et à cri dans la tentation de Saint-Antoine. Et pourquoi est-ce qu'il le rajoute? Parce que dans la légende tout à l'heure, on a vu l'allusion à la charcuterie, il va donc créer un lien entre Flaubert et la jeune école naturaliste. La charcuterie française, c'est une allusion à Zola, dont le ventre de Paris, l'année précédente, a choqué par sa description fouillée des victuailles des Halles. Et vous savez que Zola, sans arrêt, emploie le mot non pas porc dans ses romans, mais le mot cochon. On trouve un nombre d'occurrences très très important au mot cochon, hein, ce cochon bleu, etc., dans ses romans. Donc voilà comment on fait évidemment le lien entre Flaubert et cette jeune école, puisque Zola est en train de se positionner en maître, mais on est encore en train de dire voilà, c'est l'école de Flaubert qui continue. D'où ce geste, évidemment, vous le voyez, très obscène aussi de Flaubert avec le corps. Alors ces parodies, ces caricatures, inaugurent, j'espère que vous l'avez compris, un genre nouveau, celui de l'amusement érudit ou de l'érudition amusante. De prime abord, légère et facile à décoder, je vous le disais tout à l'heure, on peut en avoir une lecture très facile et déjà très amusée sans connaître le fond. Elle propose aux contemporains que mieux d'autres niveaux de lecture. La question du regard est centrale dans cette histoire. Le romancier peut-il faire œuvre d'historien, d'archéologue et donner à voir le passé? Les dessinateurs et parodistes arbitrent en soulignant la filiation entre Emma Bovary et Salambeau, loin du découpage historique opéré par Flaubert. Une filiation beaucoup plus simple. C'est la fille aimée, etc. La sœur aimée. Puis il signifie les limites de l'ekphrasis par la production d'images différentes des tableaux mises en place par l'écrivain. Enfin, sous prétexte de caricaturer, ils offrent des dessins conformes au texte. Ce faisant, il matérialise l'imaginaire flaubertien et transgresse le diktat de l'écrivain. Ce charivari, appel à la norme, filiation traditionnelle, travestissement, permet de suggérer à Flaubert la nécessaire liberté de l'image. On a le droit de le représenter. Mais cet avertissement, ce n'est pas à mes yeux une condamnation, puisque les caricatures témoignent en même temps, vous l'avez vu, avec une distance très amusée, de l'intérêt porté aux innovations littéraires. C'est-à-dire que c'est quand même en même temps un encouragement. Et ce ne sont pas, vous le voyez, des caricatures insultantes contre l'écrivain. C'est bien un encouragement à l'imagination. Alors je voulais juste, parce que Nicolas nous a apporté ceci, dire que Salambeau, elle a une postérité incroyable. Vous savez peut-être, il y a des bandes dessinées qui s'appellent Salambeau. Il y a des jeux sur ordinateur qui s'appellent Salambeau. Et par exemple, si on reprend cette adaptation musicale, donc cet opéra de Salambeau, et bien dans Citizen Kane, vous avez une toute petite scène à un moment donné où on voit justement un extrait de l'opéra Salambeau. Donc ça vraiment, ça continue à travailler l'imaginaire des gens. Oui. Oui.